Je vous propose de sortir vos Bibles. Et on va lire cette histoire. Je vous propose d'ouvrir d'abord dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Il nous est question justement de la naissance de Jésus. Et la naissance de Jésus, on va voir que selon les personnes qui le racontent, n'est pas perçue pareil, ils ne racontent pas les mêmes événements. Tous les événements ont bien lieu, les évangiles ne se contredisent pas, mais ils se complètent. Parce que, tout simplement, ce ne sont pas les mêmes écrivains et ils n'ont pas rapporté les mêmes faits des événements. Ils ont choisi différentes choses qu'ils ont voulu apporter. Luc, quand il a écrit son évangile, il s'adressait entre autres à des Grecs. Des Grecs qui croyaient dans la mythologie, vous avez tous entendu parler, où ils croyaient justement en l'incarnation humaine de Dieu au pluriel. Et Luc, connaissant ces choses aussi, s'est adressé justement à Théophile et à plus forte mesure aux Grecs, et il va nous présenter Jésus comme Dieu incarné dans une chair humaine. Alors, voici ce que nous lisons. Ce que je voudrais, on va lire le début du chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Une crèche, on y reviendra tout à l'heure, c'est pas juste la scène, une crèche, c'est une mangeoire. C'est une mangeoire, là où on met le grain pour les animaux. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons ». Jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. On va voir sur ce passage, je vais survoler, on va faire un peu de lecture, mais on va survoler juste ce qu'on vient de lire. Il y a une première chose qui est très importante dans ce que nous venons de lire, c'est que Jésus n'est pas révélé à tous. Il est révélé à un certain type de personnes. On voit que Jésus va être révélé, les anges vont apparaître, et ils vont entendre un chant magnifique, je suppose, chanté par les anges eux-mêmes, et ce sont de simples bergers. De simples bergers. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette simple chose, si je dirais? C'est que dans la Bible, Dieu nous montre à maintes reprises qu'il est prêt à se révéler, mais que si on est orgueilleux, il va nous résister. Par contre, si on est dans l'humilité, si on est prêt à être honnête sur nous-mêmes, sur notre propre situation, Dieu est bon et fidèle et il est capable de se révéler à nos cœurs. L'apôtre Jacques écrit ceci, Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». On voit que Jésus, et c'est la Bible qui le dit, s'est fait connaître aux bergers. Ça nous montre que ces bergers, ils étaient dans une humilité, parce que Dieu ne se contredit jamais. Il s'est révélé à des hommes qui étaient humbles. Et il y a une première chose de ce passage que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il ne nous suffit pas de faire des choses, de paraître bien. Il nous faut être sincère et honnête devant Dieu. Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à notre attitude. Quelle est notre attitude devant lui ? Jésus, Dieu se révélera à nous que dans cet état d'esprit, parce qu'on voit que les bergers ont reçu cette révélation. Par contre, on voit aussi un autre état d'esprit. Si on continue un petit peu ce que nous avons lu, on voit que les gens de Bethléem étaient dans l'étonnement. Quand je lis ces paroles, je me dis, c'est pas très très fort quand même, compte tenu du message qu'ils ont reçu. Être juste étonné, se dire, tiens, et voilà, je suis étonné. Je viens d'entendre le discours de personnes qui ont vu le ciel s'ouvrir. Je viens d'entendre le discours de personnes qui m'ont entendu des anges chanter et dire gloire. J'ai entendu des personnes qui disaient qu'il fallait aller à Bethléem et que nous allions trouver un enfant emmailloté dans une crèche. Et tout ce que nous avons vu, tout ce qui nous a été dit, a été réalisé parce que quand nous y sommes allés, on a vu cet enfant. Ils ont raconté toutes ces choses. Et les gens de Bethléem étaient juste dans l'étonnement. Ah tiens, c'est étonnant. C'est une réaction qui semble, à mes yeux, je dirais, complètement disproportionnée compte tenu de ce qu'ils entendent. Et là, on a une réaction d'incrédulité des gens de Bethléem. Ils étaient juste dans l'étonnement. On pourrait presque dire que un grand nombre d'entre eux ne les ont pas crus. Parce qu'on peut souvent être dans l'étonnement sans croire. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont cru les bergers. Et pourtant, c'est bien la réalité. Mais voilà, Ésaïe nous parle de la venue de Jésus comme quelqu'un qui ne ferait pas de bruit, quelqu'un qu'on ne remarquerait pas. Et les bergers de Bethléem ne sont pas souvenus de ces prophéties d'Ésaïe et ne se sont pas rappelés que par rapport à ce que disaient les bergers, ça pouvait correspondre. Ils ne se sont pas souvenus et ils sont simplement restés dans l'étonnement parce qu'ils étaient dans un état d'aveuglement. Ils ne pouvaient pas croire. Ils étaient dans l'étonnement. Quelle est notre réaction ? Est-ce que, à l'écoute du message de l'Évangile, on va juste être dans l'étonnement ? Tiens, Jésus est venu sur la terre, mais pourquoi faire ? On va le voir tout à l'heure. Mais est-ce que je vais rester dans l'étonnement ? Ou est-ce que je vais aller plus loin ? Et que je vais être dans cette humilité qui va permettre à Dieu de se révéler à mon cœur. C'est la première question que je vous poserai cet après-midi. Maintenant, on va aller regarder Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu, lui, ne s'adresse pas au même public. Matthieu, c'est un juif. Et il s'adresse à des juifs. Et les juifs, ce qu'ils avaient besoin d'entendre, c'est que le Messie allait arriver. Les Juifs, ils avaient besoin d'entendre qu'un roi allait arriver parce qu'ils attendaient le Messie. Et d'ailleurs, à ce jour, c'est triste, mais ils l'attendent toujours. Parce qu'ils n'ont pas cru, non plus. Et Matthieu va essayer de dépeindre justement l'arrivée de Jésus avec quelque chose, je dirais, de sensationnel. Parce que cette histoire, quand on y réfléchit, on va le lire, mais je vais essayer d'imager un peu pour qu'on comprenne bien, mais... Souvent, on est tellement habitué à faire ces scènes, à voir les crèches, à voir des choses comme ça, qu'on en oublie ce que ça veut dire. Alors, on lit au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ceux-là, ce sont des étrangers d'Orient. Certains imaginent qu'ils sont de Babylone, mais on pourrait très bien imaginer qu'ils viennent de Chine. On ne sait pas. Ils viennent d'Orient. des étrangers savaient que celui qui venait de naître était le roi. Et les Juifs, eux, ne l'ont pas vu. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors on va avancer un peu. C'est dans ce passage-là, donc on continue. « Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. » Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait au-devant d'eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, vous noterez qu'il est écrit le petit enfant, pas le petit bébé, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, pas dans l'étable, ils entrèrent dans la maison. Vous voyez que les crèches qu'on peut faire, elles sont pas bibliques. Parce qu'on souvent, on met les mages, on met les bergers, on met tout le monde autour. Mais les bergers, ils sont arrivés dans une maison. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Alors ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, j'assiste encore, il a grandi le bébé. Avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Là, on a une scène absolument merveilleuse. Et à côté de ça, on va avoir une scène tellement triste. Imaginez, vous êtes dans votre ville, dans votre rue, vous êtes chez vous. Et voilà que toute la police arrive, toute la police débarque. Il y a l'hélicoptère qui est dans le ciel. Et là, vous avez toutes les voitures présidentielles qui arrivent. Et qui se mettent devant votre voisin. Et le président sort de la voiture. Il arrive avec des cadeaux et il va l'offrir aux gens, à vos voisins. Quelle réaction vous auriez ? On imagine l'image. Souvent, en plus, on les dessine. Quand on les imagine, on en dessine trois. Sauf que dans la Bible, c'est pas écrit qu'ils sont trois. Ça se trouve, ils sont plus. Ils ont offert trois présents, mais il n'y a pas trois mages. On ne sait pas combien ils étaient. Ça, c'est encore une erreur. Mais imaginons un peu la scène à l'époque. Bethléem, c'était tout petit. C'était un petit village. C'est ce que la Bible dit. C'était un tout petit village. Tout le monde se connaissait. Dans les villages en France, vous êtes d'accord avec moi qu'on se connaît. Parce que c'est ça, c'est l'histoire. Et à Bethléem, c'était exactement le cas. Les gens se connaissaient. Et imaginez à ce moment-là, les mages qui arrivent, avec leur belle tenue, leur statut de mage. Parce que dans le pays dans lequel ils étaient, ils avaient certainement un statut important. Et ils voient arriver la délégation, et qui va chez Joseph et Marie. Et l'or et la myrrhe et l'encens qu'ils ont apporté, ils les ont vus arriver avec tout ça. Ils les ont vus rentrer dans la maison et les offrir. Et ils ont vu aussi les mages se prosterner. C'est pas ce qui est écrit. Ils voulaient l'adorer. De toute manière, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Donc ces gens-là, ils ont vu les voisins, là, ils ont vu les mages arriver. Et ils les ont vus se prosterner devant un enfant. Les gens de Bethléem. Les Juifs de Bethléem, ils connaissaient les prophéties. Et pourtant, il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas capté que le roi, le Messie, était né. Ils ont eu un premier message de Dieu par les bergers, ils étaient dans l'étonnement. Dieu, dans sa grâce, leur a parlé une deuxième fois. Et avec quelle manière ? Avec des mages. Et ils n'ont toujours pas cru. Quelle incrédulité ! Qu'est-ce que les mages ont offert ? Ils ont offert de l'or. L'or, c'est tout ce qui montre la divinité de Jésus. La royauté de Jésus. L'or, c'est le signe de la royauté. L'encens, pour ceux qui ont déjà un peu lu l'Ancien Testament, l'encens, c'est ce qui est brûlé, qui est offert à Dieu. La myrrhe, elle va nous parler des souffrances du Seigneur. Ça, ce sont des symboles. Mais toujours est-il que ces trois cadeaux, ils avaient de la valeur. C'était des vrais trésors. Ces mages sont venus, ils ont offert des trésors à la famille de Marie et de Joseph. Et pourtant, ils n'ont pas cru. Que s'est-il passé juste après ? Une fois que les mages sont partis, si on reprend le passage, verset 13, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Le lendemain, quoi. Lorsqu'ils furent partis, c'est au moment même, ils vont devoir déménager. Alors, il y en a peut-être qui, quand les mages sont arrivés, ils ont cogité, ils se sont dit « Ah, c'est bizarre ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait peut-être qu'on aille aussi, peut-être que c'est le Messie, peut-être qu'il faudrait qu'on aille l'adorer. » Et ils ont réfléchi, ils ont réfléchi, ils ont réfléchi. Et peut-être qu'à un moment, le lendemain, ils sont arrivés dans la maison, elle était vide. Jésus n'était plus là. Jésus n'était plus là. Peut-être que certains ne s'en sont pas doutés, n'ont pas cherché à aller le voir. Mais peut-être qu'un certain nombre d'entre eux sont allés à la maison de Joseph et Marie et ont trouvé une maison vide. Il y a un verset que Isaïe dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Les gens de Bethléem, ils sont passés à côté. Ils auraient pu voir leur Messie. Ils auraient pu l'adorer, se prosterner devant lui. Il n'en a rien été. Nous, cet après-midi, on a la grâce d'entendre le message de l'Évangile. Parce que Jésus, s'il est venu, ce n'est pas simplement pour être un bébé. C'est un bébé qui a grandi et c'est un bébé qui est venu pour souffrir, pour nos péchés, pour le mal qui est en nous, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu le Père. Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. Il est mort sur la croix pour nous. Je vais terminer avec ces deux pensées. J'ai voulu les mettre à la fin parce que ça nous rappelle justement ce pourquoi Jésus est venu. Jésus, quand il est venu, avant qu'il naisse, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Et il est né dans une étable. Alors j'ai regardé dans ma concordance, je me suis dit, tiens, pas de place, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre passage dans la Bible qui dise ceci ? Alors j'ai trouvé ce verset. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?» Il est question du jeune homme riche qui veut s'amasser des trésors, mais il n'a plus de place lui non plus. Et il a des trésors et Dieu lui dit « Mais à quoi ça sert d'amasser toutes ces choses, parce que je vais te redemander ton âme cette nuit ?» Dans notre cœur, qu'est-ce qu'on s'amasse ? On peut s'amasser des tas de choses en se disant « Voilà, je suis bien, je suis heureux, j'ai de l'argent, on a le contentement d'avoir de l'argent, ou alors on réseaute et on s'amuse à avoir plein de contacts professionnels, ou alors on va avoir plein de contacts des amis partout, parce qu'on veut être bien, on veut être reconnu, on va avoir une bonne situation, on veut que les gens pensent du bien de nous. Alors on s'amasse des choses, mais c'est du vent. Par contre, est-ce que dans notre cœur, il y a de la place pour celui qui veut sauver nos âmes ? Est-ce que nous avons de la place pour lui ? À Bethléem, il n'y a pas eu de place pour lui. Ça montre bien toute l'incrédulité des gens. Il n'y avait pas de place pour Jésus à Bethléem. Dans notre cœur, est-ce qu'il y a de la place pour accueillir Jésus et le laisser nous changer complètement ? Est-ce qu'il y a de la place ? Ça m'a fait penser à une petite histoire. Une petite histoire. C'est un petit traité que j'avais souvent. Je me rappelle quand j'allais chez ma grand-mère, il y avait souvent ça accroché au mur. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce traité qui est le film de la vie. Le film de la vie, il y a une première image où on voit un enfant dans les bras de sa mère. Et il est écrit à côté « Trop jeune pour y penser ». Aucun souci ne vient troubler l'âme innocente de l'enfant. Mais il est trop jeune pour y penser à son salut, à la vie éternelle. Ensuite, on voit un enfant qui joue dans la cour d'école. Et à côté, il était écrit « Trop insouciant pour y penser ». Il était beaucoup mieux d'aller jouer. Ensuite, on voit un jeune qui est sur sa moto. Et à côté de ça, il y avait marqué « Trop sûr de soi pour y penser ». Parce qu'on est jeune, on a la vie devant nous et on commande notre vie. Ensuite, on voit un couple en tenue de mariage. Et là, il y avait écrit à côté « Trop heureux pour y penser ». On ne va pas penser à mon éternité maintenant, je suis en train de me marier. Ensuite, il y a un homme qui est au travail, tout pensif à son bureau. Et là, il était écrit « Trop occupé pour y penser ». Ensuite, il y avait quelqu'un qui était dans les soucis de la vie et c'était marqué en face « Trop soucieux pour y penser ». Ensuite, il y avait un vieux monsieur et il était tout courbé et était écrit à côté « Trop vieux pour y penser ». Et la dernière image qui est terrible, c'est une tombe sur laquelle était écrit à côté « Trop tard pour y penser ». Il est toujours temps d'y penser à notre salut. Et il est grand temps d'y penser. Parce que le salut, il se prépare de notre vivant. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Et comme les gens de Bethléem n'ont pas su saisir l'occasion de voir leur Messie, parce que le lendemain où ils ont voulu le voir, il était déjà parti, qu'en est-il de nous? C'est une chance qu'il ne faut pas laisser. C'est une grâce, je dirais, parce qu'une chance, ça n'a pas la bonne connotation. Mais quand Jésus passe, il ne faut pas le rater. Cet après-midi, il est là. Il est avec nous. Et enfin, je terminerai. Il n'y a pas de place dans le ciel. Il y a aussi un endroit dans le ciel. J'ai trouvé un autre passage sur ce terme-là, pas de place. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il n'y avait pas de place. Il n'y a pas de place dans le ciel pour tout ce qui est corrompu par le péché. Et ça, il faut le savoir, Dieu ne peut pas tolérer le péché dans sa présence parce qu'il est trois fois saint. Celui qui ne règle pas sa situation maintenant par rapport au péché, il ne peut pas aller au ciel. C'est la Bible qui le dit. La crèche. Je vous avais dit que je reviendrais dessus. Parce que cette crèche, elle nous parle beaucoup. On n'imagine pas ce qu'elle veut dire. Avez-vous remarqué ce à quoi sert la crèche, déjà? Elle sert à nourrir les animaux. Jésus, il est né dans une crèche. Une crèche en bois. Jésus a dit dans son ministère, « Je suis le pain de vie, je suis le pain descendu du ciel. » Et Jésus parle de le manger. C'est une image, bien sûr, qui nous parle d'accepter Jésus dans son cœur et de le suivre. Mais ça nous montre aussi quelque chose, c'est que le fait de manger, quelque part, le grain, il va être broyé. Et ça nous parle aussi de ceci, c'est que Jésus, il n'est pas venu juste comme ça, en voyage touristique sur la terre. Jésus, il est venu avec une mission bien précise, c'était celle de souffrir pour nous. J'ai écrit ceci, « Il plut à Dieu que Jésus arrive comme un animal, parce qu'il est né dans une étable. » Dans une crèche. Et il plut à Dieu de laisser Jésus mourir comme un animal. Jésus est entré dans le monde comme un animal. Et il est ressorti du monde comme un animal. Enfin, du moins, il est mort. Parce qu'après, il est ressuscité. Il est monté au ciel dans la gloire. Mais il est quand même mort à la croix comme un animal. C'est Isaïe qui le dit. Tel un animal qu'on mène à l'abattoir. Isaïe, on peut le lire, 53, verset 7. C'est pas des histoires que je vous dis. Ésaïe 53, ce sont des paroles qui ont été dites 600 ans avant que Jésus arrive. Jésus, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Voilà comment Jésus est mort, comme un animal. Et c'est Jean-Baptiste qui va l'accueillir en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour mourir sur cette croix. Alors on dessine, on voit des crucifix partout dans notre pays. Partout, à tous les coins de rue. Là où j'étais avant dans la région nantaise, en campagne, c'était impressionnant tellement il y en avait partout. Et des calvaires plutôt, pas des crucifix, des calvaires. En France, il y en a énormément. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire de voir Jésus sur la croix. Jésus qui est mort sur la croix, c'est Jésus qui est venu sur la terre, qui s'est dépouillé de sa gloire, parce que Jésus est Dieu. Il est venu comme un simple homme, il est arrivé comme un animal, et personne n'a voulu de lui. À Bethléem, on ne l'a pas reconnu. Il a grandi en Galilée, tout le monde l'a méprisé. Les gens en Israël l'ont méprisé parce que les Galiléens étaient des gens méprisés. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir, je vous expliquerai. Mais Jésus, toute sa vie, a été méprisé et abandonné des hommes, comme l'a prophétisé Ésaïe. Mais il est venu pour souffrir pour nous, parce qu'il est mort pour nous à la croix. Jésus n'est pas resté dans cette cache, il n'est pas resté bébé. Il a grandi et il est mort pour nous à la croix. Ça, c'est l'histoire de Noël. Ça, c'est l'histoire de Noël. Alors cet après-midi, un fils nous est donné, comme on l'a chanté tout à l'heure. Est-ce que la place que vous lui donnez, c'est une étable? Ou est-ce que, de Jésus, vous voulez le mettre sur le trône de votre vie cet après-midi? On va courber nos têtes. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce pour cette vie que tu as donnée pour nous. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es mort pour nous sur la croix. Seigneur, nous ne pourrons jamais le réaliser à quel point ton amour a été grand pour nous, Seigneur Jésus. Nous voulons te louer et te remercier de tout notre cœur. Et je veux te prier, Seigneur, pour que nos amis qui n'ont pas fait ce choix puissent le faire. Je te prie, Seigneur, pour qu'ils ne laissent pas cette occasion passer, qu'ils ne passent pas à côté comme les gens de Bethléem sont passés à côté. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Amen. Amen.